Nous passons maintenant la parole à Naïma Bourras, du CEDEJ, doctorante en sociologie, et Clément Stauber.
C'est ça.
Docteur en sciences politiques, chercheur également au CEDEJ, sur la politisation comparée des tissus associatifs religieux dans l'Égypte post-révolutionnaire.
Merci. Merci Marie, merci aux organisateurs. Un mot sur le titre d'ailleurs. Oui, effectivement, on avait envoyé d'abord un titre, un projet. Ça paraît maintenant peut-être que le terme tissu associatif n'était peut-être pas le mieux trouvé. Je préfère peut-être parler de milieu au sens milieu partisan, enfin donc des milieux qui auraient été structurés par des institutions religieuses et qui seraient devenus par la suite à la révolution de 2011, c'est des milieux partisans au sein desquels vont commencer à travailler des entrepreneurs politiques cherchant à créer des organisations partisanes. On a combien de temps chacun ?
Vous avez 8 minutes.
8 minutes chacun, très bien. On va essayer de tenir. Donc, on va parler aujourd'hui de 4 types de communautés religieuses en Égypte, qui sont les communautés chrétiennes, soufis, et au sein des salafistes, deux mouvements un peu différents qui sont la prédication salafiste, donc une organisation importante née à Alexandrie, et ce qu'on appelle les salafistes du Caire, donc organisation, ou plutôt galaxie, on utilisait le terme de galaxie plus lâche, de salafistes kérotes. Donc ce qu'on va vous dire s'appuie sur plusieurs enquêtes de terrain, pas seulement nos travaux, mais plusieurs travaux qui ont été faits au CEDEJ depuis 2011. Donc, je pense notamment à Gaëtan Duroy sur les chrétiens, à Aladine Arafat, Stéphane Lacroix sur les salafistes, ou encore Constantino Paonessa sur les soufis. Donc, ces différents milieux ont connu, comme je disais, une poussée de politisation suite à la révolution de 2011. On a laissé de côté des groupes politico-religieux qui étaient déjà politisés avant, qui sont politisés depuis l'origine, comme les Frères musulmans ou comme les Gamaat Islamiyya. Les 4 milieux qu'on analyse ici étaient caractérisés jusqu'en 2011, au contraire, par leur quiétisme. On peut même considérer qu'avec le Parti national démocratique au pouvoir, ils faisaient partie du dispositif de dépolitisation du régime autoritaire. Donc, milieu religieux quiétiste, politisation spectaculaire, hein, notamment dans le cas des salafistes, donc un aspect extrêmement saillant de la vie politique égyptienne post-révolutionnaire, puisque ce milieu qui était quasiment invisible avant la révolution, à la fin de l'année 2011, a conquis un quart des sièges à l'Assemblée. Et néanmoins, cette poussée de politisation n'a pas touché tous les mouvements salafistes. Hein, notamment le plus ancien, Ansar al-Sunna, est resté quiétiste. Donc les deux mouvements qu'on a suivis ici, donc encore une fois, sont prédication salafiste, donc ad-Dawa al-Salafiyya, qui a donné naissance après la révolution au parti Nour, le parti de la lumière, ensuite au parti Watan, le parti de la patrie, qui est une scission du Nour. Et la galaxie salafiste Kérot, les salafistes du Caire, après la révolution, a commencé à les appeler les salafistes révolutionnaires, qui ont donné naissance à plusieurs organisations politiques, le parti Al-Assala, le Front salafiste, le parti du drapeau, etc. Donc du côté des chrétiens, il n'y a pas de parti confessionnel chrétien en Égypte. Par contre, les milieux chrétiens et en sous-main l'Église, on en reparlera, ont soutenu différents partis libéraux, donc des partis défendant la sécularisation finalement de l'État, contre les islamistes évidemment. Donc le parti dont les plus connus qui ont été créés après la Révolution sont le Parti des Égyptiens Libres et le Parti Égyptien Social-Démocrate. Donc les deux se sont alliés au sein des élections de 2011-2012 au sein du bloc égyptien Al-Kutla al-Masriya. Donc ce bloc, cette coalition électorale, avait obtenu environ 9% des suffrages et était devenu un des principaux pôles d'opposition aux islamistes dans ce Parlement. Enfin, les confréries soufis donc, rassemblent 12 à 15 millions d'Égyptiens, donc c'est quelque chose d'important en Égypte, mais les partis issus de ce milieu n'ont pas été en mesure d'obtenir aucune représentation au sein du Parlement. Donc, ces quatre milieux sont structurés autour d'institutions religieuses, de groupements hiérocratiques, pour parler en termes weberiens, et qui reprennent un peu, finalement, qu'on peut essayer de définir en termes de la typologie de Weber et Troeltsch. Les églises chrétiennes, en premier lieu l'église copte orthodoxe, qui représente la plupart des chrétiens égyptiens, donc correspondent au type de l'église. Organisation bureaucratisée, ouverte sur le monde, qui ont été un peu dans l'opposition sous Sadat. Sous Sadat, le pape Chenouda III avait même été placé sous résidence surveillée à l'époque, mais qui est devenu un relais fidèle du pouvoir pendant les 30 années du règne de Moubarak. Et pendant cette période, elle s'est un peu éloignée de ce type weberien, justement, en étant moins ouverte au monde, en favorisant un repli de la communauté chrétienne égyptienne sur elle-même et en s'érigeant en même temps en unique représentante de cette communauté. Autre nouveauté au cours des dernières décennies, l'influence évangélique commence à se faire sentir au sein de l'Église avec le développement d'un courant charismatique assez fort. Donc, à l'inverse, la prédication salafiste, à première vue, ressemblerait à l'idéal type weberien de la secte, donc association volontaire de croyants plus ou moins en rupture avec l'ordre social, et grâce à la pratique de l'orthopraxie, hein, qui leur permet donc de se couper un peu de la société environnante. Mais la prédication salafiste a adopté certains traits du type église, la bureaucratisation, et aussi, finalement, quelque part, l'ouverture au monde, puisque, comme son nom l'indique, prédication, c'est une organisation prosélyte. Donc, enfin, les deux derniers milieux étudiés ressembleraient plus au type trollchien de la mystique, les salafistes du Caire et les organisations soufis. Alors, sachant qu'en plus, il y a une particularité égyptienne, qui est que la mystique y est organisée, institutionnalisée par l'État. Donc il y a des confréries qui sont reconnues par l'État et qui sont représentées au sein d'un conseil des confréries soufis, qui est une institution étatique. Donc malgré leurs différences, on observe plusieurs points communs entre ces organisations en termes de politisation, entre ces milieux en termes de politisation. Le premier de ces points communs, c'est que les leaders, même les cadres, les militants des partis créés après la Révolution, expliquent leur brusque politisation, leur brusque changement sur cette question de la politique, par la peur de laisser le terrain du politique à l'adversaire. Donc la peur que, pour les salafistes, que les libéraux prennent le pouvoir, même pour la prédication salafiste, la peur que les frères musulmans prennent le pouvoir et se servent du pouvoir pour s'attaquer à la prédication salafiste, à l'organisation religieuse. Donc on va créer un parti pour défendre la prédication salafiste dans le champ politique. La même chose chez les chrétiens qui ont une peur des islamistes. Les soufis aussi ont, à ce moment-là, une peur d'une victoire électorale des islamistes. Deuxième similitude, c'est le degré élevé des enjeux en cette période. Donc on est dans une période de conjoncture fluide. Et le Parlement, qui doit être élu en 2011-2012, a une nature constituante. Il doit élire une assemblée constituante. Et donc cette question de la constitution est devenue un facteur de mobilisation pour les différents milieux religieux, les salafistes pour défendre l'article 2 de la constitution qui fait de la charia la source principale du droit, et en même temps cet article est resté depuis son existence en 80 presque entièrement théorique, donc symbolique. À l'inverse, les chrétiens, les soufis veulent défendre le caractère civil de l'État. Donc civil dans le vocabulaire politique indigène, ça veut dire séculier. C'est par opposition à la fois à la religion et à l'armée. Donc on voit que la brèche ouverte dans la structure des opportunités politiques par le départ de Moubarak n'explique probablement pas à elle seule la politisation de ces milieux, mais ce qu'il explique, c'est la menace existentielle qui semble peser sur eux, et en tout cas la dimension conflictuelle finalement du champ politique, et qui reflète ici essentiellement la structuration communautaire de la société égyptienne elle-même. Donc pour comprendre cette politisation, il faut probablement être davantage de perspective interactionniste, donc essayer de comprendre comment ces différents groupes se sentent menacés les uns par les autres à cause de cette division fondamentale, donc le clivage fondamental qui coupe la société égyptienne et qui est d'un côté donc libéraux, civils, séculiers et de l'autre islamistes. Enfin, on constate dans au moins trois des cas étudiés une contestation de l'autorité des institutions religieuses par leur base qui se traduit notamment suite à la Révolution, par des tensions entre les institutions religieuses et les organisations partisanes nouvellement créées pour représenter ces milieux dans le champ politique. Ces tensions s'expriment selon des modalités différentes. Les institutions de l'islam confrérique condamnent explicitement la création de partis soufis, Alors que de son côté, la prédication salafiste a soutenu clairement la création du Parti Nour. Et enfin, l'Église a cherché à maintenir les apparences d'une neutralité politique. Donc Naïma va développer ce dernier point.
Je vais juste dire bonjour et merci beaucoup pour m'avoir invité à parler dans ce colloque. Alors en effet, pour continuer sur ce que vient de dire Clément, c'est dans les réseaux des salafistes dits du Caire que le phénomène de politisation rencontre le moins de résistance. Ce qui s'explique sans doute par, en partie en fait, par le fait que le religieux n'y est que peu institutionnalisé et que le politique y demeure aussi lâchement structuré, donc et peu autonomisé. Donc les cheikhs et les mosquées qui composent cette galaxie interviennent directement en tant qu'acteurs politiques. Ainsi, donc, lors du soulèvement de janvier 2011, plusieurs mosquées se sont mobilisées et ont joué un rôle central dans le rassemblement et l'organisation des manifestants. Et une des mosquées dans laquelle je fais, je fais mon terrain, pas uniquement, mais c'est une des celles dans le cadre de mes recherches de thèse qui portent en fait sur les femmes dans les milieux salafistes. Donc je suis amenée à fréquenter certaines mosquées. Et cette mosquée-là en particulier, je me suis rendu compte en fait que c'était une mosquée qui était très active et qu'elle s'est très vite positionnée en faveur des manifestations du 25 janvier. Alors, la mosquée qui s'appelle la mosquée de Al-Istiqama, qui se trouve dans le gouvernorat de Gizeh. Alors, dès le 28 janvier 2011, les chers de cette mosquée salafiste, qui sont en fait très réputés pour cette mosquée très réputée pour ses cours de mémorisation de Coran. Donc, ces chers ont appelé à se joindre aux manifestants et à rallier les mots d'ordre de la révolution. Donc, c'est des valeurs dignité, liberté, démocratie. Donc, et des milliers de fidèles se sont mobilisés. Alors, faut savoir aussi que cette mosquée est dans une place centrale du gouvernorat de Gizeh, puisque elle est géographiquement, en fait, elle est devant une grande place qui a une capacité d'accueillir des milliers de personnes. Donc, même stratégiquement, elle est très bien positionnée. Et c'est une mosquée qui est un grand bâtiment sur 5 étages, je vais faire vite, et dans laquelle il y a des écoles, un hôpital, donc c'est une bonne institution, quoi. Et donc ce que je disais, c'était que des milliers de fidèles en fait se sont alors mobilisés donc sur cette place, et aux côtés de personnalités politiques de tous bords. Alors on voyait des libéraux, des chrétiens qui marchaient ensemble de la place de Gizeh jusqu'à la place Tahrir, donc le 28 janvier. Et la mosquée a joué en fait un rôle de défenseur des manifestants et des libertés fondamentales, donc sans distinction d'appartenance politique et religieuse au départ. Donc cette mosquée a joué par la suite un rôle important dans la mobilisation politique des fidèles. Lors des élections législatives de l'hiver 2011-2012, elle a naturellement soutenu la coalition des partis salafistes, donc le bloc islamiste, qui était porté par le parti Nour, avec le soutien des Gamera Islamia et d'un petit parti issu du milieu salafiste Kairot, qui s'appelle le parti Asala. Alors par la suite, lors des élections de 2012, la mosquée Al-Istiqama s'est mobilisée en faveur de la campagne du Cheikh Hazim Salah Abu Ismail. Alors cet ancien membre des Frères musulmans est devenu au cours des années 2000 un des cheikhs salafistes indépendants les plus célèbres d'Égypte. Il s'est notamment illustré en 2011 en soutenant les revendications des révolutionnaires lors des événements de la rue de Mohamed Mahmoud. Et donc son soutien a été très médiatisé et... Ces revendications, en fait, elles ont été portées par la jeunesse libérale et socialiste qui refusait la victoire annoncée des Frères musulmans. Et ce Cheikh Abu Hazim s'inscrit en fait dans le salafisme révolutionnaire, qu'on appelle le salafisme révolutionnaire. Donc sa candidature à l'élection présidentielle a mobilisé des dizaines de milliers de jeunes gens, surtout des jeunes, et qui se sont rassemblés autour des organisations lâches, comme on disait tout à l'heure, telles que les Hazimoun ou les Ahrar. Donc les Hazimoun, ça veut dire les déterminés, donc déterminés, en même temps on reprend le prénom de Hazim Abu Ismail. Donc le refus de la commission électorale de valider la candidature du Cheikh, sous prétexte que sa mère est d'origine américaine, ce qui a annulé sa candidature. Donc les partisans d'Abu Ismail se sont organisés en avril 2011, et ont fait un sitting devant le siège du Conseil supérieur des forces armées. Donc fin 2012, sous la présidence de Morsi, un parti est créé sous l'égide du Cheikh, qui s'appelle le parti du drapeau, Al-Hizb al-Ra'ya, et il a arrêté le cheikh est arrêté en juillet 2013 lors de la chute des Frères musulmans, et une partie de ses partisans tente alors d'organiser une troisième voie. entre l'armée et les frères musulmans. Mais la majorité rejoint les manifestations de Nahda et de Rabaa al-Adawiya. Et suite à la sanglante répression de ces derniers rassemblements, la mosquée Istiqama va condamner de manière virulente les massacres commis par le régime. Et dans plusieurs journées égyptiens, on lira alors Al-Istiqama, la mosquée de la fitna, la mosquée de la discorde. C'est un qualificatif qui reviendra pour désigner en fait plusieurs mosquées qui vont avoir ces positions-là pour Rabaa al-Adawiya. Donc, la capacité mobilisatrice qui a été démontrée par les mosquées salafistes au cours de la séquence 2011-2013 explique sans doute en partie la volonté du régime actuel de réformer le discours religieux afin d'assécher en fait les potentiels viviers de contestation qu'on peut trouver dans les réseaux islamistes. Donc, du côté de la prédication salafiste maintenant, la création du parti Nour qui a été soutenue par les dirigeants a été soutenue par les dirigeants et l'organisation mère. Donc, bien que, même si ce parti Nour a été soutenu en fait par l'organisation mère, on se rend compte en fait qu'il y a eu des tensions qui ont eu très rapidement en lieu au sein de la prédication salafiste. Et ces tensions, elles se sont cristallisées autour de certaines obligations légales faites aux partis politiques, qui, contrairement à la vision du monde défendue, qui était contraire en fait à la vision du monde défendue par la prédication salafiste. Alors, premièrement, pour être accepté par la loi égyptienne, un parti doit comporter dans ses rangs des membres des deux sexes, des hommes et des femmes, et des personnes, en fait, des deux principales religions reconnues au Caire, donc en Égypte, pardon, donc des chrétiens. Cette présence obligée de chrétiens et de femmes parmi les adhérents du parti avait déjà déclenché des discussions au sein de la prédication salafiste, mais les débats ont été beaucoup plus vifs, en fait, pendant les élections. Alors, donc pendant les élections, en fait, on a imposé un système de quotas aux partis politiques. Donc, il y avait deux types de scrutins. Et le scrutin de liste, donc le scrutin au sein desquels les partis devaient faire des listes, il leur a été imposé un système de quotas. Il devait y avoir une femme par liste. Et ça avait fait un grand débat au sein des mouvements salafistes. Il y a des conférences qui ont été tenues pour essayer de légitimer la participation politique des femmes en politique. Et ça, toutes ces tensions ont conduit en fait à une scission durant l'hiver 2012-2013 et avec la création d'un parti qui s'appelle le parti Watan et qui rassemble en fait les politiques du parti Nour et ce dernier qui représente depuis lors que les partisans qui sont soumis à la Da'wa Salafia. Alors que le parti Watan a participé jusqu'au bout à l'organisation au pouvoir des frères musulmans et soutient encore aujourd'hui leurs revendications, la prédication salafiste et avec le parti Nour a pris ses distances avec le régime Morsi dès lors qu'une constitution conforme à ses vœux fut adoptée en décembre 2012. Donc le parti Nour a ensuite soutenu le régime issu du coup d'État du 3 juillet 2013 et demeure encore aujourd'hui l'une des dernières organisations islamistes opérant au grand jour. Toutes les autres sont devenues interdites. Donc, il a obtenu une douzaine d'élus lors des élections de 2015, puisqu'il a participé aux législatives de 2015, contre 107 en 2011-2012. Donc, il a perdu presque 90% de ses députés. Donc, la réduction du parti Nour en simple bras politique de la prédication salafiste et la stratégie de survie de cette dernière, passant par un ralliement au nouveau régime, a ainsi coupé en fait le parti d'une grande partie de son électorat. Ah, ok. D'une grande partie de son électorat. Alors, on va passer aux confréries soufis. Alors, les confréries soufis, du côté des confréries soufis, l'opposition existante entre les organisations politiques et l'institution religieuse reflète en grande partie, en fait, une tension qui traversait déjà cette dernière avant la révolution. Donc, la contestation au sein du monde de l'islam confrérique égyptien remonte déjà à 2008, année où le cheikh Abdelhadi Al-Qassabi, membre du PND et proche du pouvoir, est élu à la tête du conseil des confréries soufis dans des conditions, semble-t-il, non réglementaires. Où Rabi est placé en fait par le régime Moubarak. Donc un front de la réforme soufi est créé pour protester contre les ingérences du pouvoir politique dans les affaires confrériques. Donc le champ d'action du front se limite pour l'essentiel à des recours portés devant la justice administrative, alors que le Conseil des confréries va soutenir en fait... En gros, c'est de dire que les le conseil des confréries soufis a menacé les gens qui voulaient déjà, dès le départ, rentrer pour participer aux révolutions, a menacé de les dénoncer et d'intenter des actions en justice contre eux. Et à côté de ça, le front de la réforme soufi a créé des partis. A créé des partis avec comme principal objectif de faire barrage aux islamistes et de défendre le caractère civil de l'État. Donc deux de ces partis participent aux élections de 2011-2012. La Voix de la Liberté, qui s'est inscrite dans le bloc égyptien, et le Parti de la Libération égyptienne, qui est plus indépendant. Alors aucun de ces partis n'a obtenu d'élu, mais il est intéressant de constater qu'ils se sont positionnés auprès de ce qui apparaît comme la principale force d'opposition aux islamistes, le bloc égyptien conduit par le Parti des Égyptiens Libres et le Parti égyptien social-démocrate. Donc ces deux partis soufis échoueront à obtenir le moindre élu, et cet échec peut en partie s'expliquer par l'opposition du Conseil des confréries soufis, qui a condamné fermement à plusieurs reprises l'idée de former un ou des partis politiques sur une base confrérique. Donc, je finis rapidement... Alors rapidement sur les chrétiens. Donc l'institution officielle, l'Église copte a affiché sa neutralité quant face à soutenir ou non le régime de Moubarak à l'époque de la révolution. Et ensuite, l'Église copte, en fait, elle met une distance vis-à-vis des partis politiques qui ont été créés, notamment le Parti des Égyptiens Libres, qui est porté par Sawiris, et elle affiche une neutralité, mais en même temps, au niveau local, on se rend compte que certaines églises au niveau local vont soutenir des partis chrétiens, etc. Donc on a toujours ce que disait Clément, cette peur des acteurs religieux de se voir... chez les islamistes soufis ou salafistes, de se voir en fait disparaître du champ de la dawa, parce que ce qui s'est vraiment joué, c'est au niveau du champ religieux, c'est accéder aux politiques, c'est aussi avoir la main sur le terrain du religieux. Donc laisser les frères musulmans ou les salafistes le terrain de la politique en entier, c'était aussi craindre un recul des prérogatives qu'ils ont encore aujourd'hui. Voilà. C'est pas clair, c'est pas grave.
Merci beaucoup pour ces deux contributions, avec la difficulté et en même temps les apports d'un regard à quatre yeux sur un terrain qui est lui-même très diversifié et dont vous montrez à la fois la très grande les effets très différenciés des logiques de politisation à l'intérieur de l'espace de la compétition politique, et me semble-t-il aussi de la même manière que dans la première communication on voyait apparaître quelque chose qui échappe aux autorités religieuses, sur le registre ici plutôt des contenus référentiels. Ici, on voit que quelque chose échappe aussi dans la propre logique de contestation ad intra qui se fait jour à travers ces logiques de politisation. Merci beaucoup pour vos deux contributions, trois contributions. Et,